un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024 et cette chronique va être consacrée à un texte sur ce qui se passe à Gaza. Mais auparavant, je voudrais vous faire part d'un communiqué de nos amis de la Fédération Unie de l'Hérault du groupe de Béziers sur ce qui se passe donc dans la ville de Béziers avec Robert Ménard, le maire, qui, une nouvelle fois cette année, a décidé d'installer des crèches, des symboles chrétiens dans des bâtiments de la République, et ce, malgré 6 défaites devant le juge administratif. Donc, voilà ce que nous disons, ou ce que disent plus exactement nos camarades de Béziers. Malgré 6 défaites devant le juge administratif, Robert Ménard continue à installer des symboles chrétiens. Pourquoi le préfet ne fait-il pas respecter la loi de 1905 ? Comme chaque année, le maire de Béziers cherche à organiser à nouveau la provocation en installant des symboles religieux dans les bâtiments de la République. Ceci malgré 6 condamnations au tribunal administratif et à la Cour administrative d'appel de Marseille et de Toulouse. Malgré défaite sur défaite, le juge a continué à faire respecter la loi de 1905. La mairie a donc annoncé l'inauguration d'une nouvelle crèche de la Nativité le 30 novembre 2024. Que cherche le maire ? À faire le buzz en permanence, passer sur les ondes, les plateaux télé, tout en se disant « en rupture », alors qu'il ne fait que se conformer à ce qu'on attend d'un homme politique. Les mêmes existent à gauche d'ailleurs. Tous utilisent la religion pour nous diviser, car ils savent que c'est la seule façon d'éviter de parler des problèmes sociaux, c'est d'invoquer d'autres choses. N'est-ce pas Macron qui avait annoncé au couvent de Bernardin vouloir, citation, « réparer le lien entre l'Église et l'État » Et n'est-ce pas dans le gouvernement Macron que se verra bien Ménard s'il n'avait cette étiquette d'extrême droite qui lui colle à la peau ? Maintenant, une question se pose. Pourquoi le préfet, pourtant au fait des motivations profondément politiques du maire de Béziers et des jugements du tribunal administratif, a pris la décision les années passées de laisser faire ? La préfecture, qui pourtant se renseigne sur chaque fait et geste des militants qui dénoncent le génocide en Palestine, allant jusqu'à envoyer des lettres à un élu qui arborait un t-shirt de soutien à la Palestine, à Brissac, dernièrement. Contrôle extrême et répression pour de simples citoyens qui dénoncent un génocide reconnu par l'ONU, dont les auteurs sont visés par des mandats d'arrêt internationaux, mais laxisme total, voire soutien implicite pour des élus qui ostensiblement montrent et se vantent d'être au-dessus des lois. La libre pensée rappelle que la loi doit s'appliquer à tous et que cette volonté de nous entraîner vers le conflit sur des bases communautaristes est le corollaire à une marche à la guerre. Il revient aux partis, aux syndicats et aux associations attachées à la laïcité de s'y opposer. Car non seulement le maire Ménard confond allègrement ses convictions religieuses personnelles et l'intérêt général qui impose la neutralité en matière confessionnelle, en violant en permanence la laïcité, sans que les gouvernements Macron et ses préfets ne disent quoi que ce soit, alors qu'ils ont le mot « laïcité » plein la bouche quand il s'agit des musulmans. Mais, en plus, ils dilapident l'argent des contribuables. Ainsi, il vient d'être condamné, il vient d'être contraint de payer 1 500 € à la libre-pensée, car il a été condamné à le faire par le tribunal. Une somme correspondant à la moitié de cette pénalité sera versée à l'Union juive française pour la paix, UJFP, pour son action en défense du peuple palestinien, qui est actuellement victime d'un génocide conduit par les amis fascistes sionistes du gouvernement Netanyahou, du maire Ménard. Et une autre somme correspondant également à la moitié de ces 1 500 € sera reversée, quant à elle, à la marche des solidarités, qui défend les intérêts des travailleurs immigrés victimes du racisme des amis politiques du maire Ménard et de Madame Ménard quand elle était députée. Béziers, donc, le 29 novembre 2024. Voilà. Donc, je tenais à vous lire ce communiqué parce que ce qui se passe dans ce département et plus particulièrement à Béziers est quand même difficilement compréhensible et surtout cette attitude de laxisme au niveau, donc, du préfet. Alors, Je vais maintenant, comme je l'ai annoncé, revenir sur des informations qui concernent ce qui se passe à Gaza, sur la question également de la décision du CPI, qui sont des questions également importantes. Donc là, ce sont les textes que je soumets à la réflexion de chacun, hein, comme c'est l'habitude dans cette chronique. Et là, c'est un texte publié dans Mediapart. Là aussi, nous sommes coutumiers d'utiliser des publications qui apparaissent sur Mediapart. Un texte donc de Joseph Confavreux, pardon, publié le 19 novembre dernier sur Gaza. Donc, Rachid Khalidi sur Gaza, citation, « Il est difficile d'imaginer ce que Trump pourrait faire de pire que Biden et Harris ». Rappelons que la jeunesse américaine s'élève et manifeste très fréquemment en défense du peuple palestinien et que celle qui était à l'époque candidate et que les résultats du scrutin ont montré que donc cette prise de position ne lui avait pas du tout réussi, s'est opposée à la jeunesse américaine, en réaffirmant en permanence son soutien inconditionnel à Netanyahou et à ses amis du gouvernement israélien. Donc, Rachid Khalidi est né en 1948 et c'est un historien américain d'origine palestinienne, considéré comme l'un des chercheurs majeurs sur le Proche-Orient et les relations entre cette région et les États-Unis. Il a succédé à l'intellectuel palestinien Edward Said, à la chaire que tenait ce dernier à l'université Columbia, à New York, une chaire qu'il a décidé de quitter à la fin de cette année. Il a été pendant 20 ans l'éditeur des études donc sur la Palestine, du journal des études sur la Palestine. En français ont été publiés trois de ses livres. « Palestine, histoire d'un État introuvable », Actes Sud 2007. « L'Empire aveuglé, les États-Unis et le Moyen-Orient », Actes Sud 2004. Et l'identité palestinienne, la construction d'une conscience nationale moderne, La Fabrique, 2003. Rencontre à l'Université Columbia à New York. Mediapart, que peut changer l'élection de Donald Trump à la politique extérieure des États-Unis ? Réponse de Rachid Khalidi. Il est impossible de dire ce que Trump fera en matière de politique étrangère. Une bataille pour l'oreille de Trump semble se préparer entre les néo-colonialistes et les isolationnistes. Mais il est impossible de dire comment cela affectera la Palestine. Les choses apocalyptiques peuvent empirer ou non. Il est difficile d'imaginer ce que Trump pourrait faire de pire que ce que Biden et Harris ont déjà fait pendant 13 mois. Mais comme nous l'avons appris dans les dernières années 1970 et 1980 pendant la guerre du Liban, les choses peuvent toujours empirer. Je doute que Trump veuille une guerre avec l'Iran ou qu'il souhaite que la guerre à Gaza et au Liban continue de faire rage lorsqu'il prendra ses fonctions. Toutefois, cela n'amènera pas nécessairement le gouvernement Netanyahou à changer de politique. Le rapport de force est inversé depuis déjà un long moment et la capacité des décideurs politiques américains à croire ou faire semblant de croire chaque mensonge évident raconté par leurs interlocuteurs israéliens, bouclier humain, toutes les précautions prises pour éviter les victimes civiles, pas de nettoyage ethnique, pas de génocide, pas d'intention de recoloniser Gaza, etc., etc., semble sans limite. Je doute que cela change sous Trump. Question de Mediapart. Pourquoi quitter maintenant votre poste à Columbia et dans quel esprit le faites-vous ? Réponse donc de Rachid Khalidi. Cela fait 3 ans maintenant que j'ai entamé ce processus de retraite anticipée. Ce n'est donc pas lié aux événements qui se sont déroulés ici à Columbia depuis le 7 octobre. Depuis 40 ans que j'enseigne aux États-Unis, je sais comment me débrouiller avec les sujets difficiles, l'impérialisme ou le Moyen-Orient. Mais je ne voulais plus faire partie d'un système universitaire où les priorités pédagogiques sont reléguées loin derrière les considérations financières. Ce sont les trustees, les membres du board, parmi lesquels les experts ont pris le pas sur les professeurs, qui gèrent l'université comme un hedge fund, alors que Columbia est assise sur un fonds de réserve de plus de 15 milliards de dollars et est le plus gros propriétaire foncier de New York. Ils réduisent drastiquement le nombre de maîtres assistants, ces doctorants qui sont chargés des TD et des copies. Il existe un choix clair et délibéré de privilégier la spéculation sur l'éducation. Et donc, l'entretien se poursuit avec cette question de Mediapart. Quelle est la situation à Columbia un an après le 7 octobre ? L'atmosphère est à la répression. On ne peut plus entrer sur le campus sans passer par un contrôle policier. De nombreux étudiants ayant participé aux manifestations de soutien aux Palestiniens sont toujours sous procédure disciplinaire, voire judiciaire. Les donateurs contrôlent tout et ils ont aujourd'hui un poids plus important que les milliers d'enseignants du campus. Ce n'est pas très nouveau, mais la différence est qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Auparavant, cela se passait en coulisses. Il n'en reste pas moins que de nombreux étudiants demeurent courageusement mobilisés et continuent d'affirmer leur soutien à la Palestine, mais c'est de plus en plus difficile. Comment vous êtes-vous mis à travailler sur l'Irlande ? Je ne suis qu'au début de ce projet consistant à étudier le colonialisme britannique en Irlande et en Palestine, qui s'étend de la moitié du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. La première fois que je suis allé en Irlande, j'étais frappé des correspondances entre ces deux expériences coloniales, alors que les Irlandais ont vécu plus de 8 siècles sous le colonialisme britannique, tandis que pour les Palestiniens, cela n'a duré qu'une trentaine d'années. Il y a des continuités dans le personnel, qu'il soit politique, notamment Arthur Balfour, policier ou administratif. Mais contrairement à l'Égypte ou à l'Inde, il existe dans les deux cas une logique d'implantation. Pour l'Irlande, il s'agit de planters anglais. Pour la Palestine, il s'agit du mouvement sioniste. Quand Ronald Storrs, qui devient gouverneur militaire de Jérusalem en 1917, décrit la situation en Palestine comme, citation, « la création d'un petit Ulster juif dans une mer d'Arabes hostiles », fin de citation, il s'inspire directement de ce qui a été fait en Irlande. Mediapart demande « peut-on aller jusqu'à comparer les discriminations contre les Irlandais avec le racisme anti-arabe ?» Et la réponse est la suivante. La différence entre les Anglais et les Irlandais est religieuse et pas ethnique. Mais l'attitude des Anglais vis-à-vis d'Irlande pendant plusieurs siècles procède d'un genre de racisme. Certains textes parlent véritablement d'eux comme des bêtes ou comme des Indiens d'Amérique du Nord. C'est incroyable. Mais il y a bien sûr des différences. Le sionisme ne correspond pas à une extension de la souveraineté de la patrie comme nombre de colonialismes. C'est un projet national juif qui s'est allié avec les Britanniques dans le cadre d'intérêts communs. Pour les Anglais, il s'agissait d'implanter des colons pour des raisons stratégiques. C'est l'intérêt de l'Empire et de la raison d'État qui conduisent à mettre des Juifs en Palestine sans pour autant les aimer. Mediapart demande, votre livre de référence, donc une centaine d'années de guerre en Palestine, qui date de 2020, va-t-il enfin être traduit en français ? Oui. Alors qu'il était déjà traduit dans 25 langues, il ne l'était ni en allemand, ni en français, ni en italien, ni en hébreu. La traduction allemande est finalement parue il y a quelques mois, et les traductions françaises chez Actes Sud et italiennes paraîtront en 2025. Diriez-vous que la guerre contre les Palestiniens en cours à Gaza prolonge celle que vous décrivez dans ce livre, ou qu'elle franchit des seuils tels qu'ils vont jusqu'à rendre inadapté le terme même de guerre ? On peut sûrement employer d'autres mots. Et j'ai choisi ce cadre d'analyse parce que les guerres coloniales peuvent avoir des périodes d'accalmie et des périodes d'embrasement, et parce que cela permet de compléter le regard sur qui sont les belligérants au-delà de ceux qui se battent sur le terrain. Cela me permet d'analyser notamment la déclaration Balfour de 1917 comme une déclaration de guerre contre les Palestiniens, de même que le plan de partage de la Palestine adopté par les Nations Unies en 1947. Lors de la révolte palestinienne de 1937-1939. Ce sont les Anglais qui font la guerre aux Palestiniens, pas les sionistes. Le problème est que les États-Unis et l'Occident voient tout avec une perspective israélienne. Je me dis parfois que le New York Times devrait se rebaptiser Israel Times. À partir de là, ce qui se passe aujourd'hui est-il une continuation, une nouvelle phase de cette guerre séculaire ? Pour moi, il s'agit bien de la poursuite d'une logique politique et militaire qui vise à remplacer une Palestine arabe par une Palestine juive. Theodor Herzl n'a pas écrit l'État arabo-juif, mais l'État des Juifs. Les sionistes ne sont pas venus en Palestine pour rester une minorité, mais pour devenir la majorité et les maîtres du territoire, c'est clair comme le soleil. Ce qui se déroule à Gaza est un nettoyage ethnique, une éradication du peuple palestinien dont les méthodes et les buts sont les mêmes qu'auparavant. Le problème est que les États-Unis et l'Occident voient tout avec une perspective israélienne. Je me dis parfois que le New York Times donc devrait se rebaptiser Israel Times. Dans les pays qui demeurent les acteurs et les métropoles du projet sioniste en Palestine, Il est nécessaire, comme l'ont toujours fait les colons, de nier la violence coloniale et le fait que la situation se réduise à une politique de déshumanisation qui peut se décliner en extermination, expulsion ou restriction de la vie dans ces endroits de plus en plus confinés, comme c'est le cas en Cisjordanie. Et donc, Mediapart demande, diriez-vous que le soutien inconditionnel apporté par les États-Unis ou la France à Israël est lié à leur propre histoire coloniale ? Réponse. Les histoires sont sans doute trop différentes pour une explication homogène de ce type. Les États-Unis sont un pays fondé sur l'extermination d'un peuple, mais qui n'a pas eu beaucoup de colonies, si ce n'est les Philippines, Hawaï ou Porto Rico. C'est une histoire différente des grands empires coloniaux qu'ont été ceux de la Grande-Bretagne ou de la France, qui ne se ressemblent pas eux-mêmes terme à terme. Dans cette optique, le soutien à Israël a certes quelque chose de naturel, mais il existe d'autres bases. Il faut d'abord prendre en compte la culpabilité occidentale. Ce ne sont pas les Arabes qui ont persécuté les Juifs, mais bien vous, les Européens. En ce sens, les Palestiniens sont sans doute les dernières victimes de l'Holocauste, comme l'a dit un survivant de la Shoah. Cette culpabilité est activée et militarisée pour exiger un soutien total à Israël. Aux États-Unis, c'est différent. Il y avait ici des lois d'immigration racistes qui ont empêché beaucoup de Juifs de fuir le nazisme. Mais les Américains ne se sentent pas aussi coupables que les Européens. Les facteurs sont d'abord stratégiques, mais aussi financiers. Beaucoup ici identifient les Israéliens de puissants cow-boys et les Palestiniens des Indiens dont le sort importe peu. Il faut se souvenir que la guerre, c'est très rentable. Si on regarde les grands donateurs qui ont financé les campagnes de Donald Trump et de Kamala Harris, beaucoup appartiennent au complexe militaro-industriel pour lequel Israël est un excellent client. Il faut ajouter à cela le sentiment très présent chez les protestants évangéliques qu'il faut appuyer le retour des Juifs sur la terre d'Israël afin que le Messie vienne et que l'Apocalypse arrive. Mais aussi que la mentalité de cow-boy anime encore largement les États-Unis et que beaucoup ici identifient les Israéliens de puissants cow-boys et les Palestiniens des Indiens dont le sort importe peu. Et Mediapart demande alors, vous étiez présent comme conseiller à la conférence de Madrid de 1991, durant laquelle on avait cru la possibilité d'une paix plus proche que jamais. Rétrospectivement, diriez-vous qu'il y a eu des erreurs faites par la délégation palestinienne ? Oui, beaucoup. D'abord, le cadre imposé, qui ne donnait pas le choix de la composition de la délégation palestinienne. Ensuite, le fait que tous les sujets ne pouvaient pas être discutés et qu'il était imposé aux Palestiniens de mettre de côté la question des réfugiés, des frontières ou de Jérusalem. Enfin, la plus importante, le fait que les dirigeants de l'OLP n'ont pas saisi qu'il y avait un plafond de concessions impossible à dépasser et qu'il aurait fallu briser ce plafond si on voulait obtenir un véritable État. A aussi beaucoup joué le fait que la délégation palestinienne pensait se trouver face à une délégation israélienne, avec les États-Unis comme arbitre, alors qu'elle était en réalité face à une délégation israélo-palestinienne. Nous sommes, aux États-Unis plus particulièrement, gouvernés par une gérontocratie biberonnée par des images et des stéréotypes racistes sur les Arabes. L'un des négociateurs américains, Aaron David Miller, a explicitement formulé le fait que les États-Unis avaient été les avocats d'Israël, à un moment où les négociations étaient bloquées. Le diplomate américain Dennis Ross a dit que les États-Unis allaient avancer une proposition de compromis et ils sont revenus avec une proposition pire que celle de la délégation israélienne. Il est impossible de refaire l'histoire. Mais je pense qu'avec des propositions plus fermes, nous aurons pu obtenir davantage que ce compromis mal embouché qui a mené aux discussions d'Oslo, puis à leur échec. Il faut pourtant se souvenir qu'il suffirait aux États-Unis de passer un coup de fil pour que les massacres s'arrêtent ou que des pourparlers reprennent. Ils l'ont fait lors des accords de désengagement d'Israël en Égypte en 1973-1975 ou pour arrêter la guerre de 1982 au Liban. L'idée de communauté internationale a-t-elle encore un sens au vu de ce qui se passe à Gaza ? Demande Mediapart. Je ne veux pas jeter le droit international sous les roues de l'autobus, mais je pose une question. Que désignait la communauté internationale à l'époque de la Société des Nations ? Les Anglais et les Français, vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Qui décide à l'ONU ? Les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et les Soviétiques, donc au moment de cette victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand ces vainqueurs étaient d'accord, ils imposaient leur décision comme au moment de la partition de la Palestine en 1947 ou de la crise de Suez en 1956. Quand ils étaient en désaccord, il existait des marges de manœuvre. Depuis l'effondrement de l'URSS, nous sommes entrés dans un monde unipolaire dans lequel il n'existe pas un droit international, mais une loi internationale pour les États-Unis et leurs amis. La Cour pénale internationale devrait être appelée la Cour africaine de justice, puisqu'elle ne s'en prend qu'à des dirigeants africains et jamais aux responsables américains pour ce qu'ils ont fait en Afghanistan, aux responsables chinois pour leur action contre les Ouïghours ou aux responsables russes pour leur guerre contre les Tchétchènes. Je ne dis pas que le droit international ne peut pas évoluer, comme le montre par ailleurs l'action menée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice sur ce qui se déroule à Gaza. Mais il n'en reste pas moins que les élites des pays occidentaux sont unies pour défendre une position israélienne où l'on peut considérer que 500 morts, dont des dizaines d'enfants, dans un bombardement, c'est en raison des boucliers humains. Nous sommes, aux États-Unis plus particulièrement, gouvernés par une gérontocratie biberonnée par des images et des stéréotypes racistes sur les Arabes. Parmi les plus jeunes, même s'il y a des pro-israéliens, on voit tout de même le monde avec une perspective différente. Voilà, et c'est la fin donc de cet entretien entre Mediapart et Rachid Khalidi, qui est donc cet historien américain d'origine palestinienne. Je vous ai lu de manière complète, de manière intégrale, cet entretien, parce que je pense qu'il est de nature à permettre à chacun de réfléchir à cette question si douloureuse de ce qui se passe actuellement à Gaza. Et du coup, je n'ai pas le temps de vous lire un autre texte sur la question de la décision de la Cour pénale internationale. Ce sera peut-être pour une prochaine chronique, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, lundi prochain, nous reviendrons donc sur l'anniversaire de la loi de 1905 et les propositions que fait la libre-pensée à l'occasion de cet anniversaire et l'annonce pour ce que devrait être l'anniversaire l'année prochaine, en 2025, puisque ce sera le 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. Alors je vous propose maintenant d'en venir au choix musical. Et pour ce choix musical, nous poursuivons notre balade autour du blues qui nous accompagne déjà depuis de nombreuses émissions. Je rappelle que je prends ces informations dans la publication de la Libre Pensée, L'Idée Libre, dont le numéro paru en septembre a comme titre « Autour du blues » et avec toute série d'articles. Alors je vous invite bien évidemment à demander cette publication, si vous souhaitez pouvoir la lire, auprès des militants du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée Dordogne. Alors, cette balade autour du blues nous amène aujourd'hui à écouter ce qu'on appelle le blues du Détroit, John Lee Hooker, donc, qui nous a quittés en 2001. Et juste un mot au sujet de John Lee Hooker, né dans le Mississippi, il vagabonde dans le Delta, avec comme seul viatique sa guitare, s'installe à 20 ans à Memphis, puis à Cincinnati, et se retrouve en 1943 à Détroit dans le flot des travailleurs dont a besoin l'industrie automobile. Beaucoup d'expérimentation dans son jeu de guitare électrique, à l'ampli saturé et aux sonorités très agressives et lancinantes, et pouvant user de distorsion. La structure du blues, Andy, n'est plus vraiment respectée, laissant la liberté à l'interprétation des paroles. Dans les années 50, il se produit seul, avec comme unique accompagnateur une planchette de bois sous la chaussure. Et là, donc, nous allons donc pour aujourd'hui écouter Stump Bougie, donc, qui date de 1951. Dans ce blues, la voix dure et assurée de Johnny Hooker répond à des riffs de guitare et accompagne aussi, presque en murmure, les intermèdes joués en solo guitare. Quant à la symbolique du vagabond, Johnny Hooker l'inscrit parfaitement bien dans les traces traditionnelles du blues qui chemine. Thank you. Voilà, donc nous nous retrouvons quelques instants pour la fin de cette chronique et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, comme je l'ai indiqué déjà tout à l'heure, la semaine prochaine, eh bien, nous évoquerons l'anniversaire de la loi de 1905 avec un communiqué de la libre-pensée et les propositions pour le 9 décembre 2025. À la semaine prochaine, bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre-Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.